qu'il y a mille lectures possibles des lecteurs de la Bible et du Talmud et du reste avec leur dictionnaire. Tout ça, c'est très intéressant. C'est de la culture, mais c'est pas le Talmud. Le Talmud, tant que le maître n'a pas dit, voilà, comment tu peux comprendre, et mets tes pieds dans ces pas-là et marche, toi. Mais il faut d'abord se mettre quelque part. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi je le disais un peu trop rapidement, c'est un sujet qu'on aura à prendre. Le séminaire d'avant-Pourim sera sur le pharisianisme. Et donc, on aura à essayer de régler leur compte aux sadducéens. Mais vous n'avez aucune idée à quel point la tendance sadducéenne est malheureusement répandue dans l'étude calvinique d'aujourd'hui. On fait semblant qu'on étudie une tradition, mais en réalité, on étudie un humanisme. Ce qui n'a rien à voir, tout à fait différent. Et je ne sais pas si c'était suffisamment clair, mais en tout cas, si ces questions ont pour objet, comment dire, de vous faire réagir là-dessus et de vous étonner, eh bien, étonnez-vous, parce que c'est comme ça. Là, bien, Ken, oui. Oui. Oui.
Et deuxièmement, bon, un exemple concret à propos des commentateurs, on m'a dit,
Ali, ne dites jamais on. Ou ne dites pas qui, ou vous dites qui, mais ne dites pas va.
C'est pas va, c'est ça que
j'ai entendu. Ah oui, ça, on progresse.
Ah, d'accord, mais que.
Parce que les on, c'est moi.
Que le.
Quoi?
Maïmonide avait donné. Un
animal, et on a entendu ça l'autre soir. Bon, peu importe, continuez.
Alors, je
ne
sais pas, alors,
c'est un exemple d'ailleurs valable de ce que vous dites, mais je me rattache au fond à votre question. Auquel je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais quand vous avez dit, mais est-ce que ça veut dire que un maître ne peut pas se tromper, hein? Oui, votre question est légitime. Tant que nous sommes formés à la méthode et dans la mentalité universitaire, l'idée que une pensée apparaîtrait comme infaillible est une idée scandaleuse, vous comprenez, mais il ne s'agit pas de ça, hein? Nous ne sommes pas du tout chez les papes ou les sous-papes, l'infaillibilité pontificale, il ne s'agit pas de tout ça. Je vous donne la Torah est infaillible. Okay? Mais je vous donne un exemple. Il y a eu des civilisations où un général qui perdait une bataille, on le mettait à mort. Okay? C'est-à-dire un maître qui se trompe, c'est pas un maître, c'est très grave. Okay? Et c'est pourquoi. Vous n'avez aucune idée à quel point il y a une minutie, il y a de la transmission, enfin vous avez idée d'ailleurs je pense, il y a une espèce de contrôle et de minutie de la transmission. Et la vraie question c'est, y a-t-il des maîtres, si c'est ça un maître? Ça c'est un vrai problème. Où sont les maîtres? Je me rappelle, j'ai fait partie des premiers sfaradines qui ont rencontré les premiers ashkénazines qui rencontraient les sfaradines, juste après la guerre mondiale. Et alors, nous étions très peu dans notre temps de jeunes, je ne sais pas comment vous dire en français, c'est pas, on va dire religieux, pratiquants, hein, qui nous occupions de Torah, surtout en milieu d'étudiants, en milieu universitaire, nous étions les fous du temps. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on s'est habitué que ça vaut la peine de s'occuper de ces grands livres. Mais à l'époque, pour la plupart, c'était les vieux livres, c'était pas des grands livres. Eh bien, alors, quand il y avait une sorte de blague, c'était les Hachamim Australiens. Parce que quand vous avez la maison, où sont les Hachamim? Alors, les Sfaradim avaient tendance à dire, ils sont chez les Ashkenazim, bien sûr. Et les Ashkenazim avaient tendance à dire, ils sont chez les Sfaradim. Alors, finalement, on s'était mis d'accord qu'ils sont en Australie. Vous voyez à peu près le problème. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, si je dis, une pénurie de vrais maîtres, dans ce sens-là. Il n'y a pas pénurie d'enseignants, vraiment, mais il y a pénurie de ce type de maître, c'est-à-dire non pas celui qui a des élèves, mais celui qui a eu un maître. Vous comprenez? Et qui parle de la Torah en tant que Torah, et non pas comme un humanisme parmi les autres, et là il ne peut que mettre que son génie propre, et en général c'est tout petit. Vous comprenez le scandale de cette histoire. Avec beaucoup de bonne foi, avec beaucoup d'honnêteté. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il y a une sorte de consensus non écrit que, bien sûr, entre nous, le sourire des augures, n'est-ce pas ? Les vieilles bonnes femmes pieuses parlent de la révélation comme révélation, mais nous, les Talmidei Hachamim, nous savons très bien que c'est la sagesse juive. Qu'est-ce qu'on va... vous comprenez, à lire sa marque ici, le sourire des augures, il faut bien faire attention à cela. Et vous savez, pour un homme de tradition, ça ne trompe pas. Dès qu'il entend trois mots de quelqu'un qui parle de Torah, il sait si c'est un sadducéen ou un sadducéen. Tout de suite, on entend. Vous comprenez, je veux dire, exactement comme je donnais cet exemple, je ne sais pas à qui, parce qu'il est là, quand on m'a posé une question au cours du matin, un correcteur des preuves d'imprimerie qui connaît son métier, au premier coup d'œil, il voit sur une page qu'il y a une faute. Vous comprenez ? Alors, dès qu'on entend quelqu'un parler de Torah, on sait s'il a une Hachamim ou pas, on sait s'il fait partie de la tradition ou pas, on sait si pour lui, ce livre, c'est un livre de culture, ou bien c'est, comme il se présente, la révélation du Créateur du monde à travers l'histoire d'un peuple particulier et de génération en génération. Voilà. C'est une différence de nature. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est que dans l'approche humaniste, universitaire, sadducéenne de la Torah, il peut y avoir par coïncidence qu'on a compris la même vérité que le texte dit, par coïncidence. Mais c'est un aléatoire, vous comprenez ce que je veux dire ? Extraordinaire. Et alors, je crois que la vraie question est sociologique et historique. Y a-t-il vraiment suffisamment de maîtres aujourd'hui dans ce sens-là pour répondre à la demande qu'il y ait quelque chose de nouveau dans notre génération, du peuple juif qui veut une vraie Torah et pas des histoires pieuses, enfin des lectures pieuses du Talmud. Vous comprenez, je veux dire, pas des, ce que notre maître appelait la bouillie sucrée, enfin la farine lactée, comme il appelait ça, la bouillie sucrée, c'est pas le ronron de l'homélie consistoriale, enfin rabbinique. J'en crois des termes péjoratifs pour dire de quoi je veux parler. Ça ne veut pas dire que tous les rabbins du consistoire ne sont pas des familles d'Akramim, il y a des exceptions partout. Bon, ensuite, en tout cas, revenons à notre problème. Je crois que c'est ça la vraie question. Comment reconnaître un maître? Et là, on ne peut pas vous donner de raisonnement, on ne peut pas vous donner de démonstrations, on ne peut pas vous donner des critères. C'est une question d'expérience. Le Talmud dit quelque part, si tu dis j'ai cherché et j'ai pas trouvé, on ne te croira pas. Si tu dis j'ai pas cherché et j'ai trouvé, on ne croira pas non plus. Si tu dis j'ai cherché et j'ai trouvé, on croira peut-être. Cherche. Oui, le problème. Quel est le
Non, mais c'est pas exact.
Oui, c'est pas exact.
Ben
oui, mais... Bien sûr. Bien sûr. C'est bon, vous demandez ça à 11h. C'est 10h, pardon. Oui, 10h déjà. Bien sûr. Et vous comprenez bien que moi, je veux bien, mais qu'un exemple de ce genre, je ne peux pas vous faire ça en trois phrases. Okay. Et ce qu'il faut surtout... Donc, je vais vous donner la règle. L'objectif des Talmidei Hachamim, c'est pas de voir l'apparence de contradiction, c'est de voir en quoi ils sont en réalité pas en contradiction. Bon. Et alors, là-dessus, où on sait ou on ne sait pas? Parce que si on ne sait pas, on va se faire des pilpoulim à l'envers pour faire dire à A, B, et à B, C, et à B, C, D. Mais en fait, vous voyez ce que je veux dire? L'oreille gauche, oui, l'oreille droite, vous voyez de quoi je veux parler, non? Ça ne réagit pas. Eh bien, ce pilpoul complètement à l'envers, pour faire passer des récits pour des lanternes. Ou bien on sait, ou bien on ne sait pas. Et en réalité, le véritable étudiant de la Torah ne quitte pas la contradiction apparente sans avoir compris en quoi il y a sa contradiction, c'est-à-dire à quel niveau chacun a parlé. Quel est le facteur qu'il faut... Non, quel est le facteur qu'il faut mettre en évidence pour voir de quoi chacun parle, de telle sorte de comprendre qu'ils ne sont pas en contradiction. D'autant plus que c'est le principe de base de la foi juive, Torah Achat. Que la Torah est une, que Elul et Elul livrait le film Chaim. Encore un exemple de ce que je disais tout à l'heure à propos de la révélation qui se nie elle-même en s'affirmant. C'est la même chose. Nous croyons, ça fait partie de la foi talmudique, que toutes les paroles de la Torah sont cohérentes entre elles, ça découle Yahdav, okay. Et puis on fait comme si en réalité il y a des contradictions, vous comprenez? Laissez-moi parler. La grande difficulté vient de ce que tous ces enseignements oraux ont dû être mis par écrit. Et c'est parce qu'ils sont par écrit qu'apparaissent ces histoires de fous, ces impasses de contradictions apparentes. Hein? Parce que mettez ces deux rabbins vivants pour s'expliquer entre eux. Et alors là, vous verrez encore, ils sont pas mentalisés. Alors c'est ça le génie du véritable Talmid Chacham, de les faire parler entre eux, vivants, et de montrer que vivants, ils sont en contradiction. C'est, en particulier, ça il faut commencer dans l'étude du Talmud lui-même, à propos de la même question, du même verset, tel Chacham dira, voilà ce que j'ai à dire au nom de la Torah, on dira, voilà ce que j'ai à dire au nom de la Torah, contradiction apparente, mais on n'a pas compris la page de Talmud, donc on n'a pas compris en quoi ils sont en contradiction. Et je vous dirai, quel est à mon sens, je schématise beaucoup, la raison pour laquelle on est arrivé à une situation sadducéenne. Vous voyez ce que je veux dire. La situation est sadducéenne. Et je crois que c'est parce qu'on a coupé l'enseignement et l'étude, pardon, du Talmud, de l'étude de la Kabbalah. Et, tout simplement, j'essaie de vous dire, l'ordre de l'étude pour l'élève, c'est d'abord tout le Talmud, et après on commence la Kabbalah. Mais l'ordre de l'étude pour le maître, c'est ayant déjà appris la Kabbalah, enseigner le Talmud. Vous comprenez? Et le Talmud du maître et le Talmud de l'élève, c'est donc pas le même du point de vue de la méthode. Est-ce que c'est clair? Le Gaon de Vilna dit, le vrai pshat, c'est le saut. Tant qu'on n'est pas arrivé au saut, on ne comprend pas le pshat. Alors, l'élève, son ordre, c'est pshat, remez, drach, saut. Mais le maître, c'est saut, pshat, drach, remez. Pourquoi? Parce qu'il avait lu. Chat, remède, vache, sauve, chat. C'est clair? Vous voyez ce que je dis? C'est-à-dire, ce n'est pas une obligation pour l'élève de connaître la Kabbalah pour s'approcher du Talmud, mais ce devrait être une obligation pour le maître de connaître la Kabbalah pour enseigner le Talmud. Or, pour des raisons diverses et variées, mais en particulier la grande catastrophe du Shabbatéisme, et surtout en Occident, on a interdit l'enseignement de la Kabbalah. Alors on est arrivé très rapidement à cette situation sadducéenne. C'est-à-dire que c'est un faux Talmud qu'on étudie, enfin, non, le mot est fort. C'est un Talmud dévitalisé, c'est un Talmud privé de son âme, privé de son contenu qu'on étudie. Et, si vous voulez, on arrive, si vous voulez, à cela que... Et on a des formules orthologues, comme je le dis souvent, l'orthodoxie de la parole, voilà, que c'est un livre inspiré, mais on a la conviction qu'il n'y a aucune inspiration là-dedans, puisqu'on ne la voit pas, puisqu'on ne la voit pas. Voilà. Et je vais vous dire une chose peut-être qui va vous étonner, voilà. C'est que la véritable étude de la Torah, c'est l'étude de la Gemara. Mais tant qu'on n'a pas étudié la Gemara, à Pia Kabbalah, on n'a rien compris. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est oral. Si nous avions le temps ce soir, avec plaisir que je vous ai fait ne serait-ce que 2 minutes de Talmud Alpia Kabbalah, pour vous voir la différence. Voilà. Mais peut-être ce sera pour un autre rendez-vous. C'est-à-dire que voilà ce qui est arrivé. Et alors, vous voyez, c'est pas pour rien que le Zohar dit que les temps messianiques n'arriveront que grâce au mérite. De l'enseignement de la Kabbalah. Okay. Aujourd'hui, ça commence. Il y a une espèce de phénomène historique très frappant. Pour les hommes de ma génération, nous avons vécu la transition d'un très long temps où tout était caché. Et ce temps, vous entrez dans n'importe quelle librairie, vous avez tous les livres de Kabbalah que vous voulez éditer. Okay. Vous comprenez ce que je veux dire ? Subitement, c'est apparu comme ça. Comme si les kabbalistes avaient décidé de tout dévoiler. Dévoiler quoi ? De diffuser. Okay. Ça ne veut pas dire qu'on comprend. Okay. Mais j'ai encore, je me rappelle, étudié sur des manuscrits, des manuscrits de famille, comment les élèves se constituaient leurs livres. Le maître faisait le cours sur un chapitre, et puis lorsque l'élève connaissait le chapitre par cœur, il l'écrivait, ça constituait son livre de chapitre en chapitre. Et j'ai étudié dans un pays qui appartenait à mon arrière-grand-père. C'était des manuscrits. Et maintenant, il y a un phénomène de librairie colossal, considérable. Et alors, je crois que les kabbalistes ont jugé que le risque de fausse lecture était moins grave que la perte de mémoire totale. et que c'était plus important de prendre des fausses lectures pour pouvoir revitaliser la Torah que de continuer à cacher. Bon, il y a encore une autre raison historique, si vous voulez, là peut-être que Michel ne sera pas d'accord, mais c'est le temps de l'État d'Israël, donc c'est le temps de la Kabbalah, c'est un autre problème. Mais voilà ce que je voulais dire essentiellement. La rupture s'est faite à ce niveau-là. Hein? C'est que de la même manière que dans le Mikra, il y a les quatre niveaux du Pardès, dans la Gemara, il y a les quatre niveaux du Pardès. On connaît par tradition, tout le monde connaît cela, deux grands cas. Le Gaon de Vilna, le Rabbeinu Tam et le Arizal. Rabbeinu Tam étudiait toute la semaine le Talmud al pianiglé, c'est-à-dire sans Kabbalah, et le Shabbat il étudiait al pianista, c'est-à-dire à travers la Kabbalah. Et le Hari étudiait 7 fois de suite le Talmud dans le niglé, la 8e fois al pianista. Bon. Or, il est évident que tout ceci s'est perdu. Si vous me permettez un petit jeu de mots sur la Mishnah de Kerkiaot, Hachamim Izaharu Bedibrechem, ça veut dire Hachamim, mettez le Zohar dans vos paroles. Vous entendez le schéma Tahou Chaval Galut, de peur que, vous voyez, comment c'est relié le Zohar et la Géoula. Bon, c'est un bras, un rouge. Mais Hachamim Izaharu Bedibrechem, ça veut dire faites attention. Si vous ne mettez pas la lumière de la Torah dans vos paroles, finalement, les élèves qui viendront après vous s'empoisonneront avec ces paroles, ces paroles mortes. Est-ce que c'est suffisamment clair? Alors, je reviens sur ce point, c'est très important, parce que je sens que vous étiez préoccupé de ce problème. Malheureusement, dans énormément de réseaux de yeshivot entiers, on étudie comme les traditionnels. C'est clair ce que je dis.
Je peux poser une question. Le but de l'étude, c'est bien la suppression de toute forme de marloquette. Et est-ce qu'on n'arrive pas à une époque où justement la marloquette relève de la connaissance du Mekoubal?
Je n'ai pas compris votre question.
Est-ce que le but de l'étude au plus haut niveau, c'est pas la suppression, la résolution des problèmes de marloquette?
Si vous me répétez exactement, je continue à ne pas comprendre. Alors expliquez votre question.
J'ai du mal à l'expliquer.
Qu'est-ce que vous demandez? Je
veux dire, est-ce qu'on n'arrive pas à une époque où la marloquette pose des problèmes de Kabbalah?
J'ai pas compris encore. Mais donnez-moi.
La marloquette ne peut être résolue que par la Kabbalah.
Oui, et alors?
Est-ce qu'on n'arrive pas à une époque où c'est un phénomène spécifique de l'époque, justement?
Quoi donc?
Qu'on arrive à un niveau de connaissance et de problème où seule la Kabbalah peut apporter des solutions.
C'est ça, c'est la première partie que vous avez dit.
Oui, c'est la première partie.
La deuxième.
Et la deuxième, je veux dire qu'au niveau historique, le problème de la Kabbalah, c'est finalement la traduction du problème des Hasidim en Allemagne.
Pas du tout.
Ils ont eu des énormes difficultés.
Vous avez chez les Mikhlandim de plus grands kabbalistes parfois que chez les Hasidim. Vous ne croyez pas que ça porte de la Kabbalah? Non, c'est une erreur historique. Le Gaon de Vilna. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelait le Hassid par excellence, le Gaon de Vilna. Et Hassid. Oui.
Est-ce qu'il faut un mauvais pour tout? Quelle est la place réservée au Kibbutz et au Kibbutz?
Justement. Nous avons étudié cela le matin, au deuxième cours. Le Kibbutz, c'est le Kibbutz de quelque chose. Le Kibbutz n'est pas ex nihilo. Le chidouche, c'est un renouvellement de sens d'un contenu vrai traditionnel. Et si le contenu est vrai, et que le chidouche est authentique, c'est là qu'apparaît l'équation personnelle, le style de chaque navi. Hein, oui. Mais un chidouche, c'est un chidouche de quelque chose. Il n'y a d'autre chidouche que la méthode suivante. J'ai reçu de mon maître l'enseignement suivant, deux points ouvrés les guillemets, et voilà comment je le transmets. Et voilà, le chidouche vient après. Mais si on n'a pas déjà la base qui vient de la tradition, le chidouche, c'est pas du chidouche, c'est une invention, c'est un finoui, c'est plus un chidouche. Le chidouche, c'est le chidouche de quelque chose. Et ce quelque chose de base se transmet d'abord. Vous comprenez, nous recevons de nos parents la nature humaine de Adam Arichaud dans l'équation personnelle de chaque lignée. Mais il y a d'abord la nature humaine de Adam Arichaud. Je suis le chidouche de Adam Arichaud. Mais si on m'a pas donné Adam Arichaud, le chidouche de quoi je... Vous comprenez l'exemple que je... C'est très important. Alors il faut vous dire que ce type de mentalité traditionnelle dont j'ai essayé de vous donner un peu expérience ou témoignage est très rare encore de notre temps. C'est très rare que dans la majeure partie, si vous voulez, des maisons d'études, on étudie un contenu traditionnel avec les méthodes de l'université. Et c'est ça qui est illégitime, vous comprenez. Je pense par exemple, je ne vais pas citer de nom, mais enfin, aux grandes écoles en Amérique, tout ça, en particulier les méthodes employées dans l'école de Brisk, telles que, vous connaissez que c'est Brisk, telles que ça se pratique en Amérique. C'est déjà, à mon sens, c'est déjà très proche du saducéisme. Je n'ai pas parlé de Rabbi Chaim. J'ai parlé de la méthode de Brisk telle qu'elle est employée en Amérique. Écoutez, non, vraiment, je ne peux pas, je n'ai pas le droit, pas de maintenant d'entrer dans un risque de la chamara. Je n'ai pas le droit. Je reste dans le monde de vous citer un tel cachère, un tel pas cachère, à qui suis-je pour. Voilà, ce n'est pas le problème. Je veux simplement vous indiquer le problème dans ce grand direct. C'est-à-dire qu'il faut bien s'attendre à cela, que dans les écoles où la Kabbalah a été mise en congé, en fin de compte, la halakha est coupée, la Gemara est coupée de sa vie. Vous comprenez? Et on ne dit plus que de chacun de son intelligence. Or, dans la mesure où il y a Emunat Chachamim, où il y a attitude de piété, n'est-ce pas? Alors il peut y avoir accord formel avec le contenu qu'on ne comprend pas parce qu'on n'a pas reçu tradition. Bon. כן, לכן אמרתי, כשיש יראת שמיים, אבל, vous rappelez de cette, juste une petite minute, de cette discussion qu'il y avait entre le juif polonais et le juif allemand, n'est-ce pas? Le juif polonais a peur de Dieu, le juif allemand a peur du Shukanaou. Il a la ira du Shukanaou, pas la ira Shamaï. Minakate, la kate. C'est très injuste, mais c'est pourquoi je dis c'est une blague. Enfin, dans toute blague. Quelle?
D'un certain type de cursus ont une terreur sacrée à dévoiler l'essentiel à des gens qui viennent avec cette quête de l'essentiel immédiat. Je pense qu'il y a là un malentendu que l'on rencontre devant des véritables maîtres qui sont armés d'église, connaissent et qui se refusent par crainte de renseigner. Et M. Gordin, justement, j'ai encore une cité, en dehors même du contexte des magistrats, et déjà dans le contexte de la Jalouse, dit qu'il pensait le temps venu de dévoiler
non pas le précurseur,
mais en une partie, et en Occident, c'était doublement scandaleux de dire ça, parce qu'en Occident, ça n'était pas sérieux par les cabales d'abord, parce qu'il n'y avait pas de gens qui étaient cabalistes.
Il y avait, si j'ose dire, une cabale contre la cabale.
Et dans les pays de l'Europe de l'Est, les maîtres ont été ou assassinés, ou rescapés, et à ce moment-là, je pense qu'il y a cette espèce de terreur et de crainte. J'ai rencontré moi-même un maître, un authentique, mais qui d'emblée déclare qu'il refuse d'enseigner au niveau de la Kabbalah, alors qu'il est évident qu'il a cette connaissance, il y a cette espèce donc de... Il m'a expliqué d'ailleurs, ça, en disant comment puis-je enseigner avant que les gens aient étudié pendant
un temps. Mais
on voit une adaptation qui aggrave encore.
Mais dans ce cas particulier du maître que tu cites, d'ailleurs, je crois qu'il mérite qu'on cite son nom, qui est un très grand maître, un des plus grands d'Europe, selon le rapport même. Eh bien, au moins, ce qu'il dit est imprégné de ce qu'il ne dit pas, parce qu'il le possède.
C'est pour ça que je suis avec lui, parce que de toute façon, la Gemara qui en fait est la vraie Gemara. De quoi il parle, même quand il n'en parle pas de ça.
Exactement. Et je dois vous dire d'ailleurs qu'en général, les grands n'enseignent pas la Kabbalah, mais ce qu'ils enseignent est imprégné de leur Kabbalah. Par exemple...
Je ne suis pas Kabbalah,
c'est juste
avec un maître.
Voilà, exactement, la formule a été bien formulée. Alors, c'est ce qui a manqué. Le père parle dans Horos de ce temps. Il a le maître qui voudrait rechercher la vraie Torah, deviendra insolente parce que ce qu'on lui donne ne la satisfait pas. Et elle devient, c'est prévu dans la Gemara déjà, c'est un des signes des temps mécaniques, très mécaniques, si vous voulez, chutzpah yisraël. Or, le peuple juif est devenu chutzpahni, insolent vis-à-vis des rabbins, parce que ce qu'il entend d'eux ne les satisfait pas. Et je ne me permettrai pas de le dire si le Rav ne l'avait pas écrit. Et il dit, voilà, un temps arrive, ce temps arrive, et il faut bien faire attention à cela. Ce n'est pas l'insolence du mépris, c'est l'insolence de la frustration. Et or, ça ne veut pas dire que tous ces insolents-là, je vous parle un peu d'expérience, c'est l'insolence de la frustration. Il y a beaucoup d'insolence de grossièreté aussi. Mais enfin quand même, au niveau de la génération, c'est une sorte d'insolence de frustration. Et je veux dire que les rabbins en sont très malheureux, parce qu'ils aiment leurs juifs, enfin ils sont censés aimer leurs juifs. Et je sais par expérience, je comprends avec moi cette crainte de dire ce qui ne peut pas être entendu. Il y a dans la Gemara la formule suivante, malheur à moi si je me tais, malheur à moi si je parle. Et parce que l'expérience montre que c'est saccagé, c'est un véritable saccage qui se fait. Okay? Mais actuellement, notre maître nous a donné la voie de ce courage monumental de prendre le risque et de donner au plus haut niveau de telle sorte que quoi que ce soit puisse être retenu, et après commence le long cheminement normal où il faut 20 ans pour comprendre une phrase qu'on avait entendue il y a 20 ans. Vous voyez à peu près le problème. Et non, ce n'est pas de l'exagération, il faut 20 ans d'érudition pour ensuite comprendre vraiment, le Talmud dit 40 ans, mais pour ensuite comprendre vraiment une phrase qu'on avait entendue 20 ans avant. Bien. Écoutez, nous pourrions rester là, je peux cracher mal du chapitre, mais je vous demandais de. Oui, après une question encore, si vous voulez, de m'excuser, là je suis vraiment épuisé, comme le sujet. Ken, pas comme le sujet. Ken ? Oui, monsieur, si vous voulez. Avec un maître qui connaisse la Kabbalah. C'est l'idéal.
Alors, je me demande comment, dans la moraille, on peut faire réviser la Mishnah sans avoir connu
le Zohar.
Le Zohar apparaît vers le 13e siècle.
Oui. Disent les universitaires. Oui, disent les universitaires. Mais, en tout cas, je vous réponds par une petite anecdote. C'était au moment du combat entre les Mitnagdim et les Hasidim. Et puis, on a raconté à un rabbin Mitnagdim très érudit que le rabbin Hasid, vous savez qu'au début, les Hasidim étaient réputés être ignorants. Ils savaient danser, ils savaient chanter, mais ils ne savaient pas lire. Et c'était une calomnie, mais enfin, il y avait un petit peu comme ça au début, place pour. Et on a raconté à un rabbin Mitnagdim qu'un rabbin Hasid de la ville, de la secte, comme on disait, avait dit une chose très très vraie, très, qui implique une érudition assez rare. Le rabbin Mitnagdim a dit, mais ce que ce rabbin a dit est vrai. Et c'est dans le Talmud de Jérusalem à quelle page? Mais je m'étonne que ce rabbin a pu lire le Talmud, le Hasid a pu lire le Talmud de Jérusalem. Alors on a raconté au rabbin Hasid, voilà ce qu'il a dit l'autre. Il a dit, va lui dire que je ne l'ai pas lu dans le Talmud de Jérusalem. Je l'ai lu là où le Talmud de Jérusalem l'a lu. Voilà, vous comprenez. Il a dit, je n'ai pas lu dans le Talmud de Jérusalem l'érudition de Mitnagdim. Je l'ai lu là où le Talmud de Jérusalem l'a lu. Vous comprenez? Ça répond à votre question. Ah bon? Eh bien, Nilgash, okay. Nil. On vient de me dire que Joël a cité cela il y a quelques jours. Très bien. Nous avons un chorech familial. Ken. Il faut être très libre pour pouvoir s'y en être, vous savez. C'est effectivement un autre problème. Vous voyez, je reprends votre phrase. Et quand vous formulez la proposition « suivre un maître, c'est être privé de liberté », c'est que vous pensez à un maître qui n'est pas un maître. Vous comprenez, cette phrase a exactement le sens que vous lui donnez dans la mesure où vous avez défini le mot « maître » comme étant... mais lorsqu'on a la chance c'est un mot grec, mais lorsqu'on a le zéro, d'avoir rencontré un vrai maître, alors on sait que l'enseignement du maître libère et n'enchaîne pas, que c'est tout le contraire.
Je voulais ajouter une phrase de Abraham Lambert. Je suis contre certains enseignants familiaux, en disant que c'est un scandale, parce que ces gens-là enlèvent à leur
Abraham Lambert s'élève régulièrement quelques années
contre un certain nombre d'enseignants
parisiens, uniquement pour ce faire. Vous savez, je voulais justement, je pensais d'arrêter là. Il faut bien comprendre que il faut penser avec sa propre tête. Mais que si la tête est vide, et voilà. Et là, je dis un peu, souvent un peu sous cette forme-là, Descartes a dit, je pense. Et que, quand les rabbins des synagogues se plaignent que leurs synagogues sont vides, bien, si les juifs se sentaient chez eux dans la synagogue, ils y viendraient. Pourquoi ils n'y viennent pas? Parce qu'ils ne se sentent pas chez eux, parce qu'il n'y a plus de Torah dans ces synagogues-là. Sinon, ils y viendraient. Et ça n'excuse personne. Il y a aussi des Yetzer Hara et des Rechaim partout. Vous comprenez ce que je veux dire? Je parle de...